Eh bien, c'est terminé, la série The Next Generation est terminée. On ne verra plus que des reprises de ces émissions, de cette série Star Trek The Next Generation. Apparaîtront pour l'automne prochain une nouvelle série, encore une fois. Mais, alors, on entendait dire qu'il y avait le capitaine de l'Enterprise, de nom Jean-Luc Picard. Alors, si M. Jean-Luc Picard, qui est le chef de l'Enterprise, qui pourtant est une conception américaine, est, lui, Jean-Luc Picard, un Français, c'est qu'on veut préparer la conscience des Américains à savoir que le chef sera un jour un Français. Eh oui, et là, vous me voyez venir sur le pas de celui qu'on appelle le grand monarque. Tout ça, là, ce sont des casse-têtes, des morceaux d'un casse-tête qui se mettent tout en place. Eh oui, alors Jean-Luc Picard préfigure le grand monarque. Et ce grand monarque, plusieurs en ont parlé. Tous ceux qui sont des exégètes de Nostradamus en parlent. Et pourtant, dans d'autres prophéties plus profondes, dirait-on, on aborde le sujet d'un chevalier blanc. On aborde le sujet de « alors que tout semblera perdu, un cavalier blanc viendra et sauvera le monde ». Alors, ce grand monarque est à notre porte. Vous allez entendre des invités qui, autour d'une table ronde, on retrouve le docteur Raymond Bontemps, biologiste, mais aussi aristocrate. Il est d'origine suisse, vit en France, et il est très bien classé pour connaître les liaisons des cours d'Europe. Monsieur Michel Morin, astrologue et spécialiste des textes anciens. Il a travaillé sur le grand monarque, puisqu'il a même publié un livre, Le retour du Lys. Pas du Lys grec, là, mais du Lys, L-Y-S, le Lys, symbole de la royauté française, mais qui est aussi, ici au Québec, le symbole du Québec. Et vous comprendrez le lien avec le Québec, puisque avec l'autre invité, M. Maurice Poulain, astrologue lui aussi, qui a publié un livre, Le grand monarque. Alors, je pense qu'avec tous ces invités autour d'une table, on va vraiment entendre parler de ce phénomène, de ce personnage énigmatique qui serait déjà né et qui vivrait ici, au Québec. Et pour terminer l'émission, M. François Payotte, lui, vient de publier un livre entièrement consacré aux prophéties Nostradamus où il parle du chemin que suivra le grand monarque. Voilà le programme de l'émission d'aujourd'hui, dans cette semaine commémorative de la fin, si on veut, du premier élément de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec un œil tourné vers jamais 203. Bonne émission.
Et qu'il y aura un grand libérateur qui s'appellera Henri II, Henri le Sauveur, et qui sera le grand monarque. Alors c'est ça qui est intéressant de voir.
Comme et le grand monarque, c'est celui qu'on appellerait le Messie Sauveur du monde.
Il ne faut pas mélanger, d'après moi, le grand monarque et le retour du Messie. Dans la religion chrétienne, on attend ce qu'on appelle le retour du Christ-Roi, qui doit revenir régner sur la terre dans un royaume terrestre. Et donc les Juifs l'accueilleront comme le premier Messie, puisqu'ils l'ont loupé la première fois. Et le Christ-Roi, d'après moi, ne revient que bien après l'épopée du grand monarque, qui lui aura à se battre contre les Arabes et contre les Russes, dans une nouvelle croisade, et qui sera obligé d'aller libérer les lieux saints, car les Russes et les Arabes seront en Israël. J'en suis presque persuadé, à un moment donné, ils vont s'allier. Il faut savoir que Khomeini, actuellement, a son ambassade à Moscou, Karafat là également. Et le jour où Israël va craquer, ça va être assez difficile.
Et dans les prophéties bibliques, on nous dit que lorsque Israël, ou Jérusalem précisément, sera encerclé par les armées ennemies,
c'est la grande bataille de Megiddo qui est annoncée par l'Apocalypse de Jean. Et il y a un terrible combat qui se fait à la fin de ce siècle. Enfin, au niveau des prophéties et de l'Apocalypse, certainement.
Donc la détente qu'on a l'impression de vivre actuellement sur la planète, c'est une fausse paix, une fausse accalmie.
Je pense que c'est une mise en place face à l'heure actuelle.
parle souvent en termes d'ère historique. Nous sommes dans ce qu'on appelle présentement la transition Poisson-Verseau. Oui. Il y en a qui disent que nous sommes déjà dans l'ère du Verseau, il y en a d'autres qui disent que c'est pas fini. En fait, visiblement, c'est une transition. Et dans toute transition, il y a forcément un ordre ancien qui s'écroule, un nouveau qui peut remonter.
Chaque fois qu'il y a mort, il y a naissance.
Oui, c'est ça. Et fondamentalement, on a la religion chrétienne qui, au départ, n'était pas séparée. Il y avait la chrétienté, point. Il y a eu ensuite le schisme qui a fait l'Église orthodoxe. Ensuite, il y a eu le schisme qui a fait l'Église protestante en Occident. Et il y a eu l'islam à travers tout ça un peu avant qui a été justement fondé parce que les sages musulmans, les sages arabes plutôt, considéraient que la pensée primaire du Christ avait été déformée et Mahomet avait été chargé de restaurer la pureté. Alors, le grand monarque, finalement, va être le personnage qui va, en quelque sorte, faire comprendre aux gens qu'au-delà de toutes les religions, il y a un principe spirituel qui est sous-jacent et que le principe verso fondamental qui aime ton prochain comme toi-même, comme vous le soulignez tantôt, dans l'amour du prochain, il n'y a pas de racisme.
Mais non, c'est l'évangile.
Il y a le respect pour le cœur et l'intelligence. Alors, dans ce sens-là, ce personnage-là, on peut le voir dans l'Astradamus, on peut le voir dans les prophéties bibliques même, sans qu'il y ait de nom évidemment de nommer, où il est bien dit que ce personnage-là ne vient pas pour un peuple en particulier, mais pour tous les peuples. Et ce que l'Astradamus dit très clairement, c'est que le personnage, enfin, il y en a deux. Il y a deux personnages de sang royal. Un, apparemment, purement français, l'autre, français et espagnol. Ça, c'est extrêmement important. Et il y a même un texte ici, si vous voulez, on peut regarder peut-être un petit passage tout à fait approprié, où on dit clairement, pour une époque qui est difficile à définir, mais ça pourrait être la prochaine décennie, on dit qu'il y a un empereur qui va faire quelques grandes défaites de la barbarique nation avec grande décadence à leur règne, parce qu'il règne à ce moment-là. Sur l'Europe méditerranéenne en particulier, par victoire chrétienne. Alors, on dit le plus grand des chrétiens, alors on voit le thème chrétien, christique dans la littérature pure, avec le grand accord de toute sa consanguinité et royale alliance, donc, sont deux. Ils font une grande délibération occulte, peu de paroles, mais dont les conséquences sont d'éliminer une certaine forme d'islam dégradé, mais l'islam pur, le christianisme pur, tout ça, ça fait jonction.
Donc, on verrait apparaître sur la planète qu'une seule religion, une grande religion.
Une religion sans, en fait, d'amour. Ultimement, une religion spirituelle pure.
Oui,
la religion de l'amour du prochain comme soi-même.
Bon, alors, à ce titre-là, plusieurs prophètes profanes disent c'est le jour où l'Église catholique romaine, qui pense avoir la primauté sur toutes les autres religions, ils sont partout chez eux, ils ont leurs ambassades dans les diocèses dans tous les pays du monde.
Et oui, puis ils ne sont pas les seuls, puisque Kadhafi et Khomeini ont les leurs aussi.
Oui, je veux dire, ce n'est pas dans tous les pays encore.
Bon, oui.
Mais qu'à ce moment-là, c'est justement là qu'on pourra parler de la grande prostituée. C'est-à-dire que l'Église sera obligée de laisser tomber certains dogmes, certaines valeurs spirituelles et morales pour adhérer à ce joint venture de toutes les religions planétaires.
C'est intéressant, tu en parles, Richard. Je viens de lire dans le journal aujourd'hui qu'il y a 35 inculpations qui ont été amenées contre les responsables de la banque Ambrosiano, le fameux scandale. Et là, j'ai l'impression que ça peut faire quelque chose.
Ils ont viré Marcin, qui était président de la banque Vatican. Ils ont mis à la porte Marcin, qui était le président de la banque Vatican. Ils s'en sont débarrassés. Et on peut dire que. La mort de Jean-Paul Ier est tout à fait liée à cette affaire.
Ah oui, d'ailleurs, il y a eu un livre,
la
connexion
Vatican. J'ai su par quelqu'un de très proche du Vatican, qui était présent lors de la mort de Jean-Paul Ier, que, bien sûr, on l'a empoisonné. Je ne dirai pas par qui, parce que je pourrais me faire traîner dans diffamation.
On
je
dirais simplement. Que c'est la fille.
Bon, enfin, ça, c'est un peu vague. De toute façon, on sait très bien, c'était à la digitaline qu'on l'a tué. C'est facile, on a forcé un peu sur les gouttes. Il a été enfermé à double tour dans sa chambre.
Oui. La religieuse qui devait...
Il a bondi partout, donc on ne pouvait plus récupérer rien du tout. Et on ne pouvait pas montrer les lieux où il est mort. Et je le sais, j'en ai entendu parler par quelqu'un qui...
Si, ils ont prélevé les viscères dans la nuit même pour l'embaumer.
Ce qui est complètement illégal, je crois.
Lorsque la famille a voulu déposer plainte... Ils ont dit, nous regrettons, il est déjà embaumé.
C'est pas normal.
Enfin, c'est comme ça, peut-être que ce sont des gens rapides au Vatican.
Oui. Ils ont l'éternité devant eux, pourtant. monarque
il
parle sur la tête de la maçonnerie et il est allié au Saint-Pape, qui, d'après moi, sera flos florum. Ça demanderait aussi de parler des devises des papes. Ça, c'est intéressant, car je pense que on s'est trompé complètement, et ça, c'est un piège, disons, du grand diviseur, de nous faire croire qu'on est à l'avant-dernier pape. Je n'y crois pas du tout.
Flos florum et serpidum.
Pas du tout. Flos florum était donné à Paul VI, portait VI. Dans ses armes
la fleur de lys.
La fleur de lys. Ben oui. Et oui, mais ça, c'est une espèce de piège pour protéger la fin et l'Église. Car je crois que flos florum devrait être les armes portées par le Saint-Pape qui sera avec le grand monarque. Car le grand monarque va chercher le Saint-Pape et qui lui le sacrera à Rome. Le grand monarque sera visiblement sacré à Rome, à Aix-en-Provence et peut-être à Reims. Vous savez que Charlemagne a été sacré 7 fois. Les empereurs, dans l'ancien temps, étaient sacrés plusieurs fois. Et on peut penser, dans les prophéties que nous connaissons tous, que le grand pape sera du sang bourbon également, et qu'il ne sera même pas cardinal. On viendra le chercher dans un monastère d'un ordre qu'on dit déchaussé, à vous de chercher lequel, et ce grand pape sera le défenseur du grand monarque et unis, ils reconstitueront certainement une force spirituelle.
Ce sera donc une religion qui deviendra politique, et non une politique qui deviendra une religion.
C'est tout à fait la synarchie qui était appelée de grand vœu par certains. La synarchie, ça veut dire deux. Donc le pouvoir de l'Église et le pouvoir politique et temporel. C'est pour ça que l'aigle russe a deux têtes.
Mais là, tout ça me rappelle, Charles, de mémoire d'homme, Adolf Hitler.
Ah. Oh mon Dieu, là, mélange pas les gens, mon Dieu.
Moi pas mon Dieu, là, on va mélanger les choses.
Non. Voilà, je te dis, Richard, là, il va un peu loin, mon Dieu.
Il y a eu Napoléon,
oui.
Il y a eu Adolf Hitler.
Absolument.
Et il y en a un troisième.
Staline. Oui, Staline est un précurseur de l'Antéchrist, évident.
Oui, moi, je vois. Il a encore manifesté son empire, en tout cas.
Staline a eu son empire, 30 millions de morts. Alors, ça, je vais te le dire. Napoléon Bonaparte, c'est un précurseur de l'Antéchrist. Pour moi, il y a trois précurseurs. C'est Napoléon Bonaparte, il y a eu donc Adolf Hitler et Staline, qui s'est allié 666 jours, je te l'ai déjà dit, exactement, historiquement, c'est exact. Et qui donc, c'est le nombre de la bête. Et l'Antéchrist sera la bête. Il y a une troisième bête, il y a une quatrième bête qui vient, ou cinquième bête qui vient, et qui pourrait avoir le nom de K. Car dans des prophéties polonaises, il est dit, quand il y aura trois K, tout s'effondrera. Alors on a déjà Kadhafi, Khomeini, il en manque un troisième.
Moubarak, mais là ils n'ont rien à
faire. Karaboum.
Non, il faut penser que si le roi du Maroc s'effondre, ça sera certainement un pouvoir... islamique. Maintenant, dès que quelque chose disparaît aujourd'hui dans le monde de l'islam, tout de suite, c'est une république islamique. Moi, je suis persuadé qu'en Afghanistan, très bientôt, il y aura une république islamique. Ils ne peuvent pas aller contre ça. Lorsque le roi du Maroc est un très brave homme, qui est un type connaissant, qui est brillant, qui est l'ami des juifs, qui est l'ami des arabes, qui est l'ami de tout le monde, ne sera plus là, je suis persuadé que c'est par son fils qui régnera.
Allez.
Tantôt, tu parlais de pourquoi le pouvoir maçonnique ne régnerait pas. Mais en fait, ça risque de se produire jusqu'à un certain point.
Il règne.
Il y a un passage. Oui, ouais, mais il pourrait même régner un certain...
Il règne.
Alors, disons que la bête
est
sortie et elle existe déjà.
Ah, la bête règne.
Ça fait très longtemps.
C'est évident.
Je vais faire la conclusion justement entre le passé et l'avenir. C'est que le personnage, en fait, un personnage dont on parle dans Isaïe, qui est un serviteur de Jéhovah, supposément, et c'est très important, on dit qu'à un moment donné, il est l'esclave des puissants. Mais il est esclave un certain temps. Et au bout de ce temps-là, tout à coup, il se produit quelque chose, car les peuples voient ce qui ne leur avait pas été raconté. Autrement dit, l'illumination se produit, et là, il devient clair, même pour les puissants, que le personnage leur échappe, en quelque sorte. Et dans ce sens-là, il n'a pas été maçon au départ, mais forcément, quelqu'un qui veut faire quelque chose sur la place publique de nos jours, d'une certaine façon, c'est vrai, doit passer par, indirectement ou directement, par les contrôles occultes. Tu parles de maçonnerie.
Mais je connais des francs-maçons qui vont rouspéter à tout ce qu'on dit actuellement. Ce sont des gens...
C'est leur droit.
Ce sont des gens souvent très bien.
Ouais. Oui, c'est
ça. Très brillants.
Mais il n'est pas question de ne pas attaquer le franc-maçon en tant que personne. C'est en tant qu'organisation internationale.
Société occulte.
Mais bien sûr, c'est une société occulte. on veut bien ce que vous, on veut bien nous laisser voir ce que nous désirons voir. N'est-ce pas? Ils semblent être tout à fait de bons enfants. Mais en réalité, ils sont tous reliés par la tête.
Un maçon m'a dit, nous sommes une société non pas secrète, mais discrète. Parce qu'on les, aujourd'hui, ils ne se cachent plus.
Oui.
Parce qu'ils sont tellement puissants, ils n'ont plus à se cacher, c'est ça le problème.
Mais on ne connaît pas les tenants et les aboutissants.
La franc-maçonnerie a voté la mort de Louis XVI. La franc-maçonnerie a voté la mort du roi de Suède, qui était l'ami et l'allié de Louis XVI. En convent, trois ans avant la Révolution française, tout était déjà joué.
Vous êtes tous les deux français, je pense, et pour vous, la notion des rois de France, c'est appris depuis la petite école. Pour nous, les Québécois, on ne sait pas trop à quoi ça arrive.
Vous êtes nés aussi de ça.
On est,
oui.
C'est évident.
Vous êtes quand même le fruit de la France.
Vous êtes impliqué. Moi, vous savez...
En grande partie du peuple hébreu qui a été obligé de s'enfuir d'Europe, qui était pourchassé. Oui, on est des juifs exportés, puis il fallait qu'on s'exporte.
ne poussons pas trop quand même. Il y a beaucoup de Normands qui étaient loin d'être des juifs.
Qui étaient celtes
C'était des celtes, oui.
Toutes les nations, il est venu de toutes les nations. Bien,
je pense qu'il est très important de souligner tout de même que moi, lorsque je suis français, lorsque je viens au Québec, oui, j'ai l'impression d'être en France. En France, à Paris, je n'ai plus l'impression d'être en France du tout. On va me traiter de nationaliste, de raciste, ça m'est égal. Je dis pourquoi je ressens ça, n'est-ce pas? Oui. J'ai bien le droit de sentir.
Vous savez, parlez de l'enclave arabe autour de Paris.
Mais l'enclave, il n'y a pas qu'arabe.
Il y a 4 millions d'arabes en France.
Vous comprenez?
Ils sont déjà là, il n'y a pas besoin de faire rentrer.
L'ennui, c'est que M. Désir est toujours dans les manifestations. Lorsque Khomeini a fait son apostrophe contre cet Anglais, il y a eu des mises à mort de crier dans tout Paris. Mais enfin, nous avons des gouvernements qui sont des gouvernements qui sont des condescendants. Et tout à fait d'accord. Depuis que nous avons rendu les colonies à leurs colonies, à eux-mêmes, jamais on a eu autant d'Arabes en France. Vous comprenez?
On a déjà eu quelqu'un qui a dit sur l'émission que là où se trouve un drapeau bleu, blanc, rouge, c'est franc-maçon en dessous. Égalité, liberté, fraternité, c'est la devise de la France, c'est aussi
la devise de la maçonnerie à partir de 1848, c'est Louis-Philippe qui l'a instituée.
Alors, comment se fait-il que si ce sont eux qui sont dans l'occulte de la politique française, ils aient laissé faire tout ça, là?
Mais ça marche tout à fait dans leur sens.
La révolution a été faite pour ça.
Mais c'est tout à fait l'obédience maçonnique qui veut absolument l'absence complète de racisme et de choses comme ça. Ils veulent absolument un mélange pour mieux régner. Le livre de M. de Virgion, « Vers un supra-gouvernement mondial », n'est-ce pas? Lorsque ce livre a été imprimé par 4 fois, dans les 48 heures, il était supprimé des librairies, car tous les maçons l'achetaient pour pas que l'on sache ce qui se passait très exactement. Parce qu'il y avait tout un retour aux sources.
Y a-t-il des maçons arabes, des maçons...
Ah oui, bien sûr, mais bien
maçons noirs, des maçons... C'est une grande fraternité.
C'est
alors, vous savez, ça me fatigue, parce que je me dis, c'est peut-être ceux-là qui vont sauver la planète.
Non, en tous les cas, ils n'en prennent
sauver
pas...
Sauver dans quel but?
Ils n'en prennent pas le chemin.
Oui, un esclavage universel.
Ben, à la manière d'Adolf Hitler.
Ah, mais si c'est...
Mais alors, si c'est un but pour toi, Adolf Hitler, mon but, t'as vu comment ça avait terminé?
Ben oui, mais en
80 millions de morts, il a fini avec
des... Bon, on peut dire qu'au fond des Russes, Adolf Hitler était un boy scout.
Absolument. Car il y en a un qui s'est fait jamais prendre, c'était Staline, qui a tué 30 millions de gens. Exactement. On parle toujours des 6 millions de Juifs. C'est affreux. C'est un génocide.
Bien sûr.
Mais Staline a tué 30 millions de son peuple et il est mort dans son lit, enfermé dans sa datcha. C'est une honte.
Ceux qui l'ont tué dans l'âme, sans tuer le corps.
Et Richard, tu remarqueras que les criminels contre l'humanité, on les attrape jamais. Napoléon est mort à l'île de Sainte-Hélène, empoisonné certainement à l'arsenic par son médecin qui était payé par les Anglais. Hitler est mort brûlé par son chauffeur après s'être tiré une balle à la tête. Staline est mort, enfermé, en train de crever dans son bunker, dans sa datcha, qui était... Enfin, on ne pouvait même pas le voir. Alors, c'est pour ça qu'il est mort, parce qu'on n'a pas pu rentrer chez lui.
Alors, on revient au thème de notre émission, le grand monarque.
Heureusement, oui.
Lui sera donc de droit divin, de sang royal, de succession directe avec Mérovingien.
Mérovingien automatiquement,
mais
partons des Bourbons, parce que sans ça, c'est ça, c'est la branche Bourbon qu'il faut dire.
On n'en sort pas.
Parce que les rois de France remontent jusqu'à David. Le marquis de la Franchie. Le marquis de la Franchie a écrit un bouquin extraordinaire là-dessus.
Mais très précis.
Dit David dont on parle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, là.
Mais l'ancêtre, mais bien sûr, celui qui a été sacré par Samuel, etc. Et donc, si tu veux...
On l'appelle sacré Ténodis.
Voilà, car j'ai retrouvé dans une pièce de monnaie d'Israël, ancienne, les trois fleurs de lys des armes de France. J'ai pas apporté aujourd'hui, c'est dommage.
Bon, alors là on est sur une piste qui m'intéresse au plus haut point. Parce que si on parle de la maison de David, les prophéties disaient justement que le Messie viendrait de la maison de David.
Oui,
bien sûr.
Quand on lit les évangiles, l'un d'eux donne la généalogie de Joseph qui remonte à la maison de David et qui a donné naissance à Jésus le Christ.
Le Christ remonte par ses deux branches, paternelle et maternelle, à David, le roi d'Israël.
Alors, c'est ça, justement. Lorsque les rois mages sont venus en Palestine, ils sont venus en disant, on vient voir la naissance du roi des Juifs.
Oui, bien sûr.
Et sur sa croix, après sa mort, Pilate a fait installer un insigne, disant, Jésus, roi des Juifs.
Oui.
Alors il était mérovingien. Il était de la
Il descend, c'est David. Et c'est pour ça qu'au sacre de Reims, le dernier roi a été sacré vraiment avec l'ampoule véritable, n'est-ce pas, j'en parle dans mon livre.
La parenthèse que
la sainte huile, c'est que le roi de France était sacré et l'évêque lui disait, je te sacre comme Samuel a oint David, pour te rappeler dans le sacre que les rois de France descendent de lignée davidique. Et c'est pas moi qui l'écris, c'est le marquis de la Franchie, ancien diplomate du Vatican, ami de Pie XII.
Je reviens à ma petite parenthèse, Michel Morin, c'est que le Jésus-Christ, est-ce qu'il n'aurait pas été de droit divin, digne successeur de David, pour porter la couronne chez les Juifs?
Mais c'est ce qu'on peut penser.
C'était pas seulement un preacher, là, un bon spiritualiste, prenez-vous les uns les autres, c'est qu'il était de droit.
Les Juifs ne l'ont pas reconnu, mais ils le reconnaîtront, puisque lorsque... les chrétiens attendent le retour du Christ roi et les juifs l'accueilleront pour la première fois. C'est ce que je te dis tout à l'heure. C'est dans l'église, enfin je veux dire, on sait que chacun décide ce qu'il pense.
Bon. Mais Jésus n'a pas eu d'enfant. Et Jésus était le seul de sa famille et Jésus est mort sur la croix.
Mais oui, je pense, enfin, je sais pas, lui, on est comme ça.
Alors si je me fie à un monsieur que tout le monde connaît bien maintenant au Québec, M. Adégrave, il nous a expliqué que le mot Messie, en Kabbale, correspond au chiffre 358, et que le mot Machia, donc Messie, correspond aussi, 358, le mot Nahash. Et le mot Nahash, c'est le mot serpent. Et on sait que Meroweg, c'est la...
Nahash, c'est pas 355?
C'est le même chiffre, d'après Adégrave, en tout cas, ce qu'il nous a dit.
OK. Mais là, personnellement, moi, je ne suis pas kabbaliste.
Bon.
Nahash...
Et Nahash, c'est Meroweg, la constellation du serpent. Alors là, l'histoire est compliquée. C'est que du paradis terrestre, on a été chassé par Yahvé parce qu'on avait accepté, si on veut, l'approche du Messie de l'époque.
On n'est plus du tout, on est dans l'histoire sainte, on est dans le catéchisme. Là, on ne vient pas. Il faudrait revenir à notre sujet qui est le grand monarque et son arrivée proche, parce qu'il arrive bientôt.
Oui.
Oui.
C'est donc le retour de cette descendance.
C'est le retour d'Élis.
Oui, mais c'est la descendance d'en haut.
Oui, certainement.
C'est le retour du serpent.
Mais c'est pour ça que la France
c'est le retour du serpent.
D'ailleurs, le roi était le lieutenant de Dieu.
Oui, sur la terre.
C'est le représentant de Dieu, de droit divin.
C'est ça, donc, et la force.
Ça ne peut pas être autre chose. À partir du moment où vous voulez suivre les prophéties, c'est un homme de droit divin qui arriverait. Donc, lieutenant de Dieu.
En devenant fils de Dieu.
Oui, enfin, lieutenant du Christ, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est la force de la monarchie française qui a été quand même la lumière du monde et qui a quand même régné plus de 13 siècles, si vous voulez, quand même sur l'Europe.
Bon, à vous entendre, il va d'abord affronter la franc-maçonnerie mondiale.
Il va d'abord affronter les Arabes et les Russes. Première chose.
Non, effectivement, la franc-maçonnerie va essayer de le manipuler dans un but bien précis.
De l'arrêter, d'abord.
Si on admet que radio et télévision aujourd'hui...
Ça dérange.
Richard, regarde, c'est quand même important.
C'est certain.
Attends, c'est comme le roi Hérode qui a voulu exterminer par les saints innocents.
Moi, j'ai des gens qui ont écrit, des lecteurs qui ont lu Le Retour d'Ulysse, là, que vous connaissez, ce livre-là. Bon, eh bien, qui m'ont dit, le grand monarque, ça sera un grand financier comme Rockefeller. Alors, vous voyez bien d'où il venait. Il venait du grand club. Liberté, égalité, fraternité.
Monsieur Rockefeller est un un homme de la trilatérale.
Bien sûr, bien sûr.
Donc Monsieur Berthoin est le président en France et Monsieur Barre en est un membre éminent.
Voilà.
Et vous avez vu combien Monsieur Barre fait des
pirouettes. Et donc, voyez-vous, il y a des gens qui vont vous dire que le grand monarque sera un grand financier. Alors moi, je change de trottoir dans ces moments-là.
Oui, mais alors le pauvre grand monarque va arriver tout seul. Avec sa propre bannière, tout seul.
Non, c'est ça, Richard.
Et dans aucune religion, dans aucune organisation, ni occulte, ni...
Ils vont le récupérer un certain temps.
Il arrive comme Jeanne d'Arc.
C'est comme je le disais tantôt, il est l'esclave du puissant, par la force des choses. Dans la mesure où les puissants contrôlent radio, télévision, journaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut publiciser qui n'est pas approuvé par eux, dans le fond? Alors, dans la mesure où eux pensent pouvoir détourner peut-être certaines choses spirituelles, ils vont le détourner, ils vont toujours essayer de matérialiser les spirituels, plutôt que de, en quelque sorte, donner la vie, ils vont vouloir structurer, canaliser cette vie-là dans un sens...
L'image que vous faites du grand monarque ne sera pas seulement spirituelle, ce ne sera pas un preacher, ça va être un gars les deux pieds sur la terre.
Non, mais avant qu'il règne spirituellement, il va avoir des épreuves à traverser, ça c'est clair.
Mais peut-être aura-t-il, et les Israélites comme les francs-maçons, si jamais il y avait un affrontement entre les Arabes et les Israélites, peut-être mettrait-il les pouces dans des quantités de domaines. Et à l'occasion de cette chose, là arriverait-il? C'est possible, car il arrivera certainement à l'occasion d'une protection quelconque que les gens se serviront. Les groupes se serviront, c'est vraisemblable, n'est-ce pas? Car à l'heure actuelle, telles les choses sont en place, je ne vois pas la façon dont il pourrait arriver, car toute notre presse est occultée, tout est occulté, la radio, la télévision, tout est occulté. Mais ça, c'est absolument certain.
Alors, il arrive sans armée, enfin, moi, c'est ma théorie, il arrive sans aucune armée.
Il naît d'abord d'être humain sur la terre.
Bon, c'est ça, il naît d'un père et d'une mère, mais il va les perdre. Il est orphelin, ça c'est très très dit dans les prophéties, il est orphelin de père et de mère, il est exilé. Alors justement, avec Maurice, on en a encore parlé il n'y a pas longtemps, là, juste avant l'émission. Et on se disait, est-ce qu'il est né en France? Parce que Nostradamus dit « nul d'Espagne, mais de France », dans les prophéties qui le concernent. Alors est-ce que ça veut dire qu'il sera né en France et exilé quelque part et qu'il revient de l'étranger? C'est possible. Est-ce qu'il est né à l'étranger et il vient vers la France? C'est possible aussi.
Et cet étranger-là...
Et le sang français.
Cet étranger-là, Nostradamus nous dit, c'est dans les terres d'Hespérie. C'est-à-dire sur la même latitude que la France, à l'ouest,
c'est le
Québec. Oui, et
c'est
bien le Québec.
C'est ça, mais comme il l'a très bien dit tantôt, il dit qu'il aime beaucoup le Québec, parce que c'est ça
comme ça.
Et ça, c'est un point important. Vous avez remarqué, il y a trois listes dans la bannière...
Le dernier roi de France.
C'est ça. Ouais. Et il y en a quatre dans celui du Québec. Ça, on remarque, le 3 dans le tarot est relié à l'impératrice. En fait, le principe fondamental, en quelque sorte, c'est l'idée manifestée, si je peux dire, mais pas nécessairement l'idée véritablement concrétisée dans la mort. Tandis que dans le 4, c'est le contraire. Alors, l'idée, elle est fortement enracinée dans la nation même. Alors, on va dire qu'à ce moment-là, la nation et le roi se reconnaissent mutuellement. Il n'y a pas véritablement de distance. Non. Alors, il y a un principe de simplicité là-dedans, tout à fait remarquable.
Mais il est dit que les vrais légitimistes et ceux qu'ils reconnaîtront très vite quand il va sortir tiendront dans une cage d'ascenseur.
C'est probable.
Tiendront dans une...
Cage d'ascenseur, près d'ascenseur. C'est 15 pieds par 15 pieds.
Ouais.
C'est dit dans des prophéties, c'est même mesuré dans des prophéties. Les vrais légitimistes qu'ils reconnaîtront seront à se tenir dans 15
Alors,
pieds carrés.
Est-ce que je m'avance en disant qu'il serait déjà né?
Bien sûr.
Oh, c'est vrai.
Il faut bien sûr qu'il soit né.
Il est déjà parmi nous.
Il est déjà parmi nous et je dirais qu'il passe au Québec.
C'est vrai, c'est bien.
C'est un jeune garçon.
Michel Morin, Maurice Poulain et Dr. Raymond Bonfant, je vous remercie d'avoir amené les gens sur cette prise de conscience. Juste en terminant, en quelques 30 secondes chacun, est-ce que le Québec a un rôle privilégié dans l'histoire future du monde?
Moi, je pense que oui, pour bien des raisons, parce qu'il a gardé une forme d'authenticité, n'est-ce pas? Que la France a totalement perdu. Comme la France était la fille aînée de l'Église, nous pouvons penser une chose, que le drapeau serait planté sur le Québec au départ. C'est mon avis.
Moi, je réponds oui, parce que dans des interviews, quand on pose des questions à la population québécoise, qu'est-ce que vous privilégiez le plus au monde, ils vous disent d'abord Dieu, et deuxièmement leur santé. D'autre part, le drapeau québécois est le seul drapeau au monde qui est un drapeau d'un régiment royal et qui a des fleurs de lys et qui annonce avec ses couleurs la prophétie qui est annoncée par tous. Pour moi, le Québec, c'est la nouvelle arche. C'est un petit Israël, en deux mots rapidement. C'est une terre sacrée qui va montrer ce qu'elle est.
En peu de mots, c'est ça. C'est le royaume du lys, dans le fond, c'est ça. Le royaume, c'est le royaume de la pureté intérieure. C'est-à-dire que toute recherche dans le monde matériel devient acceptable dans la mesure où les intentions sont pures. Et la simplicité du cœur, la connaissance liée à la simplicité du cœur est quelque chose de très rare. Et je peux dire que beaucoup de savants s'installent ici présentement au Québec parce qu'ils aiment cette simplicité-là. Et le principe fondamental de Verso qui veut qu'on aime le prochain comme soi-même peut se réaliser dans ce sens-là, avec une science éclairée, mais pas seulement une science qui nous éclaire sur le corps, mais aussi sur l'intérieur. Et dans ce sens-là, il y a des choses à venir que seul le grand monarque peut nous dire. Je pense pas qu'on puisse réjouir de ça.
Et le cœur du Québec est bon.
Ça, c'est fondamental.
Merci, monsieur.
Intitulé « Messagers du futur et prophéties de Nostradamus de 1990 à 3797 », écrit et publié par M. François Payotte. Le tome 1, si vous vous souvenez, « Le mythe du nouvel ordre mondial face à la réalité prophétique ». Tome 2, « Du crépuscule des nations à l'avènement du grand monarque ». Il vient tout juste de paraître en décembre 93, « L'épopée du grand monarque ». Lorraine, Ardenne et Québec au cœur de la prophétie messianique. Il est né, le divin enfant, le tome 3. Bonjour François Payotte.
Bonjour Richard.
Bienvenue à l'ésotérisme expérimental.
Merci.
Alors comme ça maintenant on va parler du Québec et on va parler du grand monarque.
Oui, ce qui m'a intéressé dans la prophétie de l'avènement du grand monarque, c'est qu'il y avait un lien évident avec ce que Nostradamus appelle les Gaulois de l'Hespérie, c'est-à-dire les Québécois.
Pourquoi on dit ça, là?
Les Gaulois, d'abord, parce que c'est le fait français en Amérique, et de l'Hespérie, qui, pour les anciens, était le continent qui était situé le plus à l'ouest, ou le pays le plus à l'ouest. Donc, pour les Grecs, l'Hespérie, c'était l'Italie, et pour les Italiens, l'Hespérie, c'était la France. Mais le prophète, Nostradamus, est un savant de Provence, donc pour lui, le continent le plus à l'ouest, c'est l'Amérique. Alors, Gaulois de l'Amérique, c'est-à-dire les Français de la Nouvelle-France ou les Québécois.
C'est ça, parce qu'à l'ouest de la France, ben, ceux qui sont gaulois parce qu'ils parlent français, et c'est bien clair.
C'est le même parallèle.
Le Québec, voilà. Le même parallèle, oui. C'est ça.
Alors ça, c'était mon premier intérêt, et ça a commencé en 1976, alors que j'avais la librairie Nostradamus. J'avais déjà commencé des travaux exploratoires bien avant, et puis le fait d'avoir la librairie Nostradamus, j'avais donc tous les ouvrages nécessaires, et là j'ai commencé à entreprendre mes premières recherches, que j'ai été obligé d'abandonner au bout de quelques années. J'ai gardé mes manuscrits, là j'ai rencontré beaucoup de gens dans cette librairie qui était un lieu de passage pour tous les gens qui s'intéressaient à l'ésotérisme, à la prophétie en général. Et il y a une émulation qui s'est faite, c'est là que j'ai rencontré Maurice Poulain, entre autres, qui était encore très jeune, et aussi Michel Morin, et on discutait le soir de la prophétie du grand monarque. Alors eux autres ont publié par la suite plusieurs ouvrages autour de la prophétie de Nostradamus, et entre autres ils ont abordé le thème du grand monarque. Entre-temps, j'avais toujours mes notes manuscrites et il est passé des années jusqu'au jour où un dénommé Richard Glenn, je crois que c'était son nom, Richard Glenn.
Oui, oui, oui. Je pense que quand même, il s'appelait Moustache.
Oui, en guidon de vélo.
Oui, c'est vrai.
Il me dit, un jour, il me dit, mais tu as l'air de reconnaître un rayon sur les prophéties de Nostradamus, pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas quelque chose? Alors, si je me souviens bien, je pense que je lui ai répondu non, je ne suis pas écrivain du tout, je n'ai aucun talent à ce niveau-là. Et puis, il y a déjà eu tellement de choses décrites sur Nostradamus, des milliers de livres, alors pourquoi en ajouter un autre qui sera incompréhensible comme les précédents? Et puis, fort de ses encouragements, un jour, aussi parce que j'ai lu pratiquement tout ce qui a été écrit sur Nostradamus, un bon millier de bouquins, ça m'a pris 6 ou 7 ans pour en faire le tour. Et je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait rien de l'œuvre de Nostradamus qui avait été traduit. Alors, il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de livres, d'énormes bouquins, mais beaucoup de remplissages. Alors que le livre des prédictions n'avait pas été traduit, les présages n'avaient pas été traduits, donc les sixains reliés au livre des prédictions, l'interprétation des hiéroglyphes de Rapollo par Nostradamus, l'almanach de Nostradamus, la lettre au grand monarque, la lettre à son fils César et la quasi-totalité des centuries. Mm-hmm. Donc je me suis dit, bon, ben, y a du pain sur la planche, mais ça me prendrait quelques années pour bien faire le tour de la question, ça me prendrait environ 7 ans, au moins 7 ouvrages, un par année, c'est-à-dire 3000 heures d'études par année, d'écriture, pour arriver à 21 000 heures de travail pour faire la totalité de l'œuvre.
Et c'est ça que vous avez fait,
c'est ça. Et là, j'ai commencé donc en 90, et coup sur coup, là, j'ai sorti 3 ouvrages.
Ce dernier concerne carrément là, les événements qui s'en viennent dans les prochaines années, parce qu'on parle du Grand Monarque, on parle du rôle du Québec même.
C'est ça, là où j'ai voulu me démarquer, c'est lorsque je me suis aperçu qu'en fait, les ouvrages qui existaient traitaient toujours du passé. Alors c'est facile, avec le recul du temps, de dire, ben voilà, Nostradamus avait prévu ceci. C'est facile lorsque l'événement est arrivé. Donc, mais il restait un gros travail à faire, même au niveau des centuries. Il devait y avoir à peu près quelque chose comme 250 quatrains qui étaient là encore, qui concernaient l'avenir et qui n'avaient pas été abordés parce qu'ils étaient très énigmatiques, écrits dans le plus pur style sibyllin du prophète, avec énormément de clés numériques à l'appui, d'énigmes à résoudre, etc., des clés astronomiques, astrologiques, etc. Mais bon, alors j'ai commencé par le commencement, c'est-à-dire par les centuries, et avec à l'aide de ces 3 essais, j'ai donc tapé dans la butte et petit à petit j'ai déchiffré les centuries qui concernaient l'avenir. Et j'ai publié quelque chose comme 200 quatrains à travers ces 3 ouvrages. Il m'en reste environ une cinquantaine qui touchent entre autres la venue d'un autre personnage qu'on appelle le grand pasteur, qui viendra au même moment que le grand monarque.
Alors, le saint homme qui entre à Rome pieds nus.
Oui, c'est l'aspect mystique de cette double incarnation. Si tu veux, ouais. il y a l'aspect stratégique, stratège, guerrier, et l'aspect spirituel. Le grand pasteur fera l'objet d'une étude donc pour l'année prochaine dans le quatrième volume.
Dans l'émission spéciale qu'on avait fait à l'époque de Noël, j'avais posé une question concernant les rois mages, et en disant, est-ce que les rois mages ne sont pas justement l'exemple de ce grand monarque qui va être à la fois un roi qui peut porter la couronne de pouvoir temporel, et mage, le sage, le côté spirituel?
Oui, il est porteur de l'intelligence, il est l'incarnation du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité sur la terre, le grand monarque. Il est le Messie attendu par Israël depuis 2500 ans, sous le nom de Pele Yoetz Elgibor Zarchalom, qui veut dire, en résumé, le grand stratège, le héros de El, du Dieu, donc, El, et le conseiller de la victoire. Donc c'est le roi vainqueur qui sort, nous dit Jean dans l'Apocalypse, qui est sorti pour vaincre et vaincre encore. C'est le roi victorieux, le roi des rois, le justicier royal qui vient ouvrir l'ère de paix, l'ère de justice après l'Apocalypse. Mais il arrive, son arrivée coïncide avec l'entrée de l'humanité dans les temps de l'Apocalypse. Alors, l'aspect mage, en quelque sorte, on revient à cette question, c'est la deuxième partie de sa mission, lorsqu'il enseignera les mystères qui subsistent encore concernant le royaume des cieux.
Mais est-ce qu'il sera juif d'origine, puisque vous dites que ça correspond à la prophétie des juifs, qu'ils attendent toujours eux le Messie?
Alors, non, je ne pense pas. Si on se réfère à Isaïe, qui en parle beaucoup dans la Bible de l'avènement du grand monarque, il ne serait pas d'origine juive. D'ailleurs, Yahvé lui-même dans le texte, à travers son prophète Isaïe, dit « J'ai le droit de choisir qui me plaît, selon mon bon plaisir. » Un peu à l'instar de Cyrus, qui est appelé le Messie dans les temps bibliques parce qu'il a délivré le peuple captif d'Israël qui était emprisonné en Babylonie et qui lui a permis donc de regagner la terre d'Israël. Et lui, bien, il était d'origine perse, c'est-à-dire un Iranien. Aujourd'hui, c'est l'emplacement de l'Iran, la Mésopotamie, d'où venait Abraham, entre autres. Donc, vous voyez que Yahvé, selon son bon plaisir, il peut choisir qui il veut, quand bien même c'est pour délivrer Jérusalem, entre autres, ainsi que toutes les nations d'Europe qui auront croulé sous les invasions d'ici peu.
Votre tome 3 se divise en quatre parties. La première des quatre parties, ben voici un livre, là, c'est une brique, hein, publié par Xavier de Roche, un exégète des royautés françaises. Et puis je dois vous dire que c'est très, très compliqué à comprendre, parce qu'à travers tout ça, c'est écrit en petit caractère. Ça explique là, par où est passée la royauté, la monarchie française, et il arrive à un point d'interrogation à un moment donné, y a-t-il un descendant ou pas, de
Louis Capet, Louis XVI, qui a été guillotiné en 1792, un 21 janvier 1792.
La Révolution française.
Il avait deux enfants, enfin, deux garçons, qui étaient Louis-Charles et Louis-Joseph. Alors, Louis-Joseph, on dit qu'il est mort à Meudon d'une maladie qui était un empoisonnement d'après mes recherches. Et le deuxième, Louis-Charles, le petit dauphin, a été emprisonné au temple avec sa sœur qui est appelée Madame Royale dans l'histoire. Et l'on dit qu'il y est mort, enterré aux alentours de la prison du temple. Alors, c'est la grande question, si la monarchie devait revenir en France, qui donc serait le successeur légitime de Louis XVI? La réponse officielle, c'est il n'y en a pas, puisque les deux dauphins sont morts. Donc, les descendants suivants, le comte de Chambord entre autres, sont morts sans postérité, sans descendance. Donc, fin de la monarchie, adiat septem. Donc, il n'y a aujourd'hui que le comte Henri de France qui se réclame de la succession légitime du comte de France.
Le comte de Paris.
Comte de Paris.
C'est ça.
Alors Nostradamus, lui, insiste sur le fait qu'il est nécessaire de comprendre les mystères de l'histoire. Il nous dit que l'histoire ne sera révélée qu'à 50%, qu'à moitié. Mm-hmm. Et que le monde entier sera fort étonné lorsqu'apparaîtra le cavalier blanc, le grand monarque. Fort étonné de quoi? Eh bien, du fait qu'il n'y a pas possibilité de remonter l'arbre généalogique à Louis XVII, ni à Louis XVI.
C'est ça.
Et alors qu'en plus, Nostradamus prétend que c'est un Bourbon, donc comme Louis XVI, descendant de 30 générations des Bourbons de France. Alors il nous dit, pour résoudre l'énigme, il nous dit que les deux petits dauphins ne sont pas morts. Louis-Joseph, qui a été empoisonné, serait tombé dans le coma. Ensuite, on lui aurait substitué un autre enfant, qui lui était mort à Meudon, qu'on a enterré à la place du petit Louis-Joseph. Et le petit Louis-Joseph a eu droit à des traitements de médecine naturelle pour l'époque, de la part d'un médecin suisse qui aurait réussi à le ramener à la vie. Et il aurait donc échappé. Ensuite, pour ce qui est de Louis-Charles, le petit dauphin, le dernier descendant, emprisonné en temple, il se serait évadé de la prison du temple avec la complicité d'un fournisseur d'huile du temple. Il l'aurait caché à l'intérieur de tonneaux de barriques d'huile et de savon, une fois qu'elles étaient vidées, et il l'aurait sorti du temple en assommant le dernier poste de guet, les derniers gardes. Il dit qu'ils ont fait preuve de prouesse, d'acte héroïque, car au premier passage, si la sentinelle ne s'est pas inquiétée, au deuxième, ils ont voulu voir ce qu'il y avait dans les tonneaux. Et donc, ceux qui conduisaient cette petite charrette avec les tonneaux, ont assommé les gardes et le petit dauphin a gagné la liberté, libre comme le vent, a traversé Paris. Et ensuite, ils l'ont emmené jusque dans les Ardennes. Uh-huh. Alors les Ardennes, c'est un massif montagneux qui est situé à la fois sur la Belgique, le sud de la Belgique, presque tout le Luxembourg et le nord-est de la France, donc sur trois frontières. Et de là, il y a une descendance. Le petit dauphin s'est marié, a eu des enfants, mais dans la clandestinité, en tout secret, parce qu'il devait se cacher des policiers de la terreur qui le recherchaient. Et d'ailleurs, Nostradamus s'amuse beaucoup avec ces épisodes, parce qu'ils ont su qu'il s'était évadé du temple. Eux autres le savaient, les républicains, mais ils n'ont jamais pu mettre la main dessus. Alors il a eu une descendance, et de cette descendance-là surgira un jour, à notre époque, nous dit-il, des Ardennes, justement, celui qui est appelé le justicier royal, le cavalier blanc, le grand monarque, le roi des rois, seigneur des seigneurs, Métatron, l'ange de Dieu, etc. Mi-homme, mi-dieu. Enfin, à travers toute la Bible, il y a différentes façons de le présenter. Le Messie, et finalement.
Ce qui arrive dans votre deuxième partie de votre livre, d'ailleurs, c'est toute la chevauchée de ce chevalier blanc.
C'est ça. Alors, dans la première partie, j'explique toute la généalogie royale et les grands mystères de l'histoire révélés par Nostradamus. Ouais. Donc, la fuite hors du temple, et puis le petit monarque qui grandit et qui, aujourd'hui, doit avoir quelque chose comme 11 ans et vivre quelque part dans les Ardennes. Évidemment, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il sait qu'il est le Messie, le Sauveur, le Roi des Rois? La réponse est non. Il ne le saura qu'à sa majorité, mais c'est-à-dire l'âge légal, à partir de 16 ans, 18 ans. Mm-hmm. Et ce qui est fort intéressant, c'est que, d'une part, la France ne le reconnaîtra pas comme étant un descendant des Bourbons, puisque pour l'histoire officielle, il n'y en a pas. Mm-hmm. Mais que d'autre part, ce sont les Québécois qui le reconnaîtront comme tel, légitime, et en plus reconnaîtront à travers lui le paraclet annoncé par les Écritures, entre autres par Saint Jean. Et il nous dit à ce moment-là, il arrivera au Québec au moment où le fleuve sera pris en glace, donc en plein hiver, et il situe ceci aux alentours des années 98-99, donc avant la fin du siècle. Et il dit « Jamais avènement ne fut si beau, et des quatre coins de la province du Québec, de partout, on viendra l'honorer et le reconnaître. » Et la France ne le reconnaîtra que quelques années plus tard, en 2002, lorsqu'elle aura croulé sous les invasions venues de la Grande Tartarie, du Nostradamus. Alors ils feront appel à lui, et là on le reconnaîtra, non pas à travers des documents qui prouvent sa légitimité, mais à travers ses prouesses, sa hardiesse au combat. On reconnaîtra qu'il est le digne successeur de Robert le Fort, de toute la dynastie capétienne, mais aussi des Mérovingiens et puis de toutes les lignées dynastiques de France.
Parce que quand vous parlez de l'invasion de la France par l'islam et tout le reste, c'est la Troisième Guerre mondiale et ça... Vous, François Payot, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère, c'est clair et net que...
Non, j'interprète et je traduis les textes de Nostradamus.
Mais tant qu'elle est mitée, après.
Les textes les moins ambigus concernent la Troisième Guerre mondiale à partir du moment où on a compris qu'il s'agissait d'une triple alliance qui attaquerait tout l'Occident chrétien, ça veut dire toute l'Europe. Ouais. Alors il y a non seulement des forces venues d'Afrique du Nord, mais aussi de la Grande Tartarie, c'est-à-dire de la Mongolie, le couloir turco-mongol entre la Russie et puis la Chine. Donc tout ce couloir-là qui rassemblera ce que Nostradamus appelle les néo-bolcheviques, les nouveaux Tartares, les nouveaux Genghis Khan, nouvel Attila.
C'est ça, ouais.
Alors il leur donne des noms à ces
chefs-là.
Est-ce qu'on
peut voir, là, ça part d'ici, hein? De rien. Est-ce qu'ils vont avoir l'aide du Japon?
Il n'en est pas question au stade où j'en suis dans mes recherches, mais il est surtout question donc de tout ce qui est situé au nord de la mer Noire, donc de l'Ukraine ici, en remontant toute cette bande jaune que l'on voit ici, le croissant fertile turco-mongol, si vous voulez, jusqu'aux confins ici de la Chine.
Et tout ça va venir déferler
vers l'Europe. Sur la France en premier, c'est Paris en premier qui est attaqué. À la fin de cette décennie, aux alentours de l'automne 1999. Et immédiatement après, les forces venues d'Afrique du Nord qui se seront coalisées attaqueront la Provence, le sud de la France. L'Italie sera attaquée immédiatement après. Et peu de temps plus tard, c'est l'Espagne et enfin l'Angleterre. Finalement, c'est toute l'Europe.
Puis la Yougoslavie, est-ce que ça finit par se régler avant ces invasions?
Non, le conflit yougoslave ne se règle pas. Il est même le prélude à la Troisième Guerre mondiale. C'est ce que j'appelle, moi, les temps pré-apocalyptiques. Il est le baril de poudre qui mettra le feu à toute l'Europe. Parce qu'il est question ici, en Yougoslavie, d'intervention, d'une part, de l'islam dans le conflit pour défendre les factions musulmanes qui sont attaquées là-bas. Et aussi l'intervention de la marine soviétique qui quittera les ports d'Ukraine pour venir prêter main forte aux Serbes. Et finalement, l'intervention des Américains ici pour mettre un terme à ce conflit. Alors ça va prendre encore quelques années, ça. Il y a une extension du conflit yougoslave qui se fait à l'Italie, dans la région de Rome, justement, qui a été menacée dernièrement dans les journaux. Les Serbes ont menacé oui. d'envoyer des missiles sur l'Italie. Hein. Oui. Et puis des scopes améliorés, là, qui ont une portée assez longue pour atteindre l'Italie. Et d'autre part, la vallée du Pô en Italie, donc entre la France et le nord de l'Italie, qui sera, dans les termes de Nostradamus, devenue terre interdite parce que brûlée sous l'effet des bombes, de l'île de bombes qui va s'abattre ici sur cette région-là.
Ça, c'est pour les années qui viennent.
Alors oui, le conflit yougoslave fait en extension et puis on entre dans les temps apocalyptiques de la Troisième Guerre mondiale, qui est à la fois une guerre avec usage d'armement nucléaire, bactériologique et des gaz également. Hein. Et donc toute l'Europe s'embrase suite à ces invasions-là, qui sont des guerres de pillage. C'est une famine généralisée dans toute l'Asie centrale qui poussera ses armées et une rébellion de la marine soviétique en mer Noire qui poussera donc à l'attaque des pays riches de la communauté
et nous,
économique.
Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on est comme sur une île, un petit peu isolé de tous ces problèmes.
Hein. Ben, en Amérique, je ne vois pas d'événements importants à travers les prophéties de Nostradamus, à part ce que l'on connaît des tensions raciales aux États-Unis qui risquent d'enflammer à nouveau le pays. Au Québec, il semble bien que le peuple québécois s'acheminera vers sa souveraineté au moment où le souverain apparaîtra, le grand monarque, donc dans les années 98, ça sera quelque chose. On entend dire que le Québec est un point privilégié sur le globe, mais en fait, le privilège du Québec, c'est de reconnaître le paraclet lorsqu'il viendra sur la Terre. Ça, c'en est un privilège.
Le tome numéro 3, est-ce que c'est presque nécessaire d'avoir lu le tome numéro 1 ou numéro 2 comme prérequis avant d'avoir
non.
le...
Non. Non. Dans chacun des thèmes, je traite un sujet très particulier que je développe en profondeur, mais je reviens constamment sur ce qui a été dit dans les autres.
Oui. Merci, M. François Payot, et on se retrouvera au 15,
certainement.
Dès qu'il se passe quelque chose.